Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission Terre solidaire avec M. Samuel Pomeray, chargé de mission dans la région des Grands Lacs, de l'Éthiopie et aussi du Congo. Et à propos du Congo, je crois que c'est intéressant dans ces questions de problématiques de développement de voir quel est le rôle de l'Église. Et puis aussi, puisqu'on est au Congo, le Congo, c'est un pays extrêmement riche, le sous-sol. J'étais professeur de géographie, on parlait du scandale géologique du Congo et on voit des difficultés et d'une certaine manière, la pauvreté. Alors, qu'en est-il? Et puis, comment le CCFD intervient pour faire en sorte que les ressources naturelles aillent peut-être à ceux qui sont les premiers intéressés, ceux qui habitent là?
Oui, tout à fait. Alors, à propos du Congo, on a l'habitude de parler de scandale des
scandale
ressources.
Scandale géologique, oui.
De scandale géologique, tout à fait. Tant le pays, regorge de ressources, que ça soit du bois, de l'or, des minerais rares, du diamant, etc., etc.
Et le coltan.
Et, voilà. Et des minerais qui sont absolument nécessaires et stratégiques pour l'industrie électronique. Finalement, le Congo, aujourd'hui, il illustre, je dirais cruellement, ce qu'on appelle la malédiction des ressources naturelles. C'est comment est-ce qu'on est à la fois un pays qui regorge de ses ressources naturelles et un pays plongé dans une extrême pauvreté, et encore pire, je dirais dans le cas du Congo, plongé dans le conflit, puisque depuis le milieu des années 90, il y a une large partie du pays, toute la frange Est, c'est-à-dire les deux Kivu, mais pas uniquement, parce que on retrouve aussi des conflits liés aux ressources naturelles dans d'autres zones. Cette frange Est est plongée dans des conflits locaux extrêmement graves, cycliques, qui mettent en prise des groupes armés, notamment, qui s'alimentent et qui se financent sur l'exploitation sauvage des ressources naturelles, et notamment du coltan que l'on retrouve dans nos téléphones portables.
Oui, alors là, le CCFD, agriculture vivrière, on ne peut pas faire de l'agriculture sur un champ de bataille.
Non, on peut pas faire de l'agriculture sur un champ de bataille. Enfin, surtout, on peut pas faire de l'agriculture quand une région est complètement détruite et sous l'emprise de ce qu'on appelle l'extractivisme. C'est-à-dire que quand des mineurs s'installent, des mineurs artisanaux, ils vont tout simplement détruire les terres pour aller extraire les minerais. Puis qui dit carré artisanaux dit groupe armé qui cherche à en prendre le contrôle pour s'assurer.
Donc des milices.
Des milices. On a pu voir aussi l'armée congolaise impliquée dans des trafics. Donc voilà, c'est un état de guerre permanente sur fond d'avidité pour ces ressources naturelles.
Alors, comment vous pouvez soutenir des projets de développement et quels sont les enjeux environnementaux? Quel partenariat on peut nouer dans ces conditions?
Le CCFD travaille, je dirais, depuis longtemps et je dirais de manière assez traditionnelle avec les commissions épiscopales justice et paix. À la fin des années 2000, vers 2008-2009, on a engagé le dialogue avec la commission épiscopale justice et paix de la conférence épiscopale congolaise sur cette question des ressources naturelles. Voilà, avec ce cri d'alarme et cet appel à l'aide de la commission épiscopale disant, si on ne gère pas cette question du pillage des ressources naturelles, le conflit ne s'arrêtera jamais. Donc il faut agir. Et on a participé avec cette commission épiscopale à la création d'une commission spécifique sur les ressources naturelles, qui s'appelle la Commission épiscopale pour les ressources naturelles, dont le secrétariat général est au siège de l'épiscopat congolais à Kinshasa, et qui va se décliner au niveau des diocèses dans des observatoires locaux des ressources naturelles. Qu'est-ce qu'ils font? Concrètement, ils font du monitoring et ils disent, sur le territoire du diocèse, il y a tel groupe armé qui a ouvert un carré où on exploite de l'or. Ici, il y a l'exploitation de tel autre minerai. Et puis, ils vont décrire les impacts. Les impacts sont malheureusement tragiques. C'est la violation massive des droits humains, la destruction de l'environnement. Ils vont documenter ça et vont le faire remonter. Déjà, c'est comprendre la situation au niveau local, concrètement, comment ça se pose dans le diocèse. Et puis après, bien sûr, ils font du plaidoyer au niveau national, c'est-à-dire qu'ils interpellent les autorités et ils placent les acteurs devant leurs responsabilités.
Et ils, là, ce sont les gens de l'Église, y compris les évêques.
Tout à fait, ce sont les évêques. Ce sont les évêques qui ont poussé ce cri d'alarme en demandant, bien sûr, une amélioration des cadres légaux au Congo. Et ça, c'est un travail au long cours, c'est pas évident, ça demande une vraie technicité. Il suffit pas de s'indigner, c'est-à-dire qu'il faut faire des propositions concrètes pour l'amélioration des cadres, des codes miniers, des codes sur les hydrocarbures. Tous ces codes, finalement, qui régissent l'exploitation des ressources naturelles. Donc ça, c'est un travail qu'ils ont fait au niveau congolais. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont été même au niveau européen pour porter un travail d'encadrement.
Ça veut dire que là, l'Église joue un rôle politique essentiel.
L'Église assume tout à fait son rôle politique et j'ai envie de dire heureusement, parce que qui aurait pu porter la voix des millions de Congolais qui souffraient au quotidien de cette exploitation des ressources naturelles? J'ai envie de dire, ce rôle politique, elle l'assume. Et c'est vraiment...
En référence aussi avec les populations.
Ah oui, tout à fait, oui, oui. Tout à fait. La première chose aussi, c'est informer les populations sur leurs droits. C'est-à-dire que la loi congolaise, paradoxalement, n'est pas mal faite. C'est-à-dire que l'exploitation des ressources naturelles est censée dégager des subsides et des ressources pour le développement local. Or, ces ressources échappent complètement aux Congolais. Ils vivent dans un état de dénuement et de misère totale, alors qu'à côté, il y a des fortunes qui s'évaporent. Donc oui, il faut informer les populations sur leurs droits, travailler avec les administrations locales, travailler avec les administrations centrales, faire évoluer la loi quand il est nécessaire de la faire évoluer, imposer la transparence dans la gestion des contrats miniers, des contrats pétroliers, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de corruption, et ça c'est quand même une gageure en RDC. Et puis, l'Église, et là où c'est intéressant, c'est qu'elle a développé son action au niveau international, c'est-à-dire qu'avec des organisations comme le CCF des Terres Solidaires, comme la CITSE, qui est la plateforme des organisations catholiques de développement européenne, ou le réseau ERAC, qui est un réseau d'ONG qui travaille sur l'Afrique centrale. Pendant des années, on a mené un plaidoyer au niveau européen pour qu'il y ait un règlement européen qui encadre le commerce des minerais en provenance des zones de conflit. Et ainsi s'assurer que les fabricants de matériel électronique ne s'approvisionnent pas avec des minerais illégaux en provenance notamment du Congo.
La loi existe, mais est-ce qu'elle est appliquée ?
Alors, cette loi, c'est un règlement européen qui a été qui a été voté en 2016. Donc, ça a été, bon, bah, d'abord, c'était une grande satisfaction parce que c'était créé un précédent. Alors, évidemment, nous, on le trouve pas satisfaisant. On le trouve, trop timoré. Il ne va pas assez loin. Il est pas assez en prise avec la réalité du commerce des minerais. Mais c'est un premier pas. Là, on est rentré dans une phase de mise en place de ce dispositif qui va aller jusqu'en 2021. Donc, d'ici 2021, on interroge nos autorités nationales, l'État français, les administrations, pour savoir concrètement comment est-ce qu'ils mettent en place ce dispositif, quels sont les acteurs concernés par l'achat de minerais stratégiques. Et puis, en 2021, il sera le temps de faire le bilan et puis de faire d'autres propositions. Et là, on travaillera encore avec la Commission épiscopale ressources naturelles, parce que c'est vraiment un allié de poids, et sa parole porte.
Radio Grand Ciel.
Terre solidaire. Alors ça, c'est ici, finalement, l'action. Mais là-bas, comment ça se traduit sur le terrain ? Est-ce que sur le terrain, il y a, je sais pas moi, des catéchistes, des... Enfin, comment les gens réagissent ? Comment ça fonctionne ? Parce qu'il faut aussi, pour que ça puisse être entendu ici, que là-bas, sur place, il y ait du répondant. Mmh. Et alors moi, j'ai l'impression quand même que cette église, on va l'assassiner. Enfin, on va... Ils vont pas être très bien, les gens de l'église qui sont là-bas. Ils prennent des risques énormes.
Ils prennent des risques énormes, mais ils ont une ambition énorme. Alors moi, j'ai une expérience concrète de travail avec le diocèse d'Uvira. Alors Uvira, c'est au sud Kivu, c'est au bord du lac Tanganyika, c'est à la frontière entre la RDC et le Burundi. Et là-bas, l'évêque, Monseigneur Sébastien Muyengo, a mis en place deux organes au sein de son diocèse. Un qui est dédié à la protection des ressources naturelles et un autre qui est dédié au monitoring des exploitations des ressources naturelles. Et en fait, c'est complémentaire. C'est-à-dire que vous avez un organe qui fait de la sensibilisation sur les enjeux de protection de l'environnement, qui va mettre en place des actions à grande échelle pour lutter contre l'érosion, favoriser encore une fois le développement de pratiques agroécologiques pour pouvoir permettre de nourrir la population et de valoriser les ressources locales.
Oui, parce que le coltan, ça ne se mange pas.
Le coltan, ça ne se mange pas. Mais ce qu'il faut montrer, c'est qu'on peut vivre de l'agriculture et que la mine n'est pas une fin en soi et que cette agriculture, si elle est appuyée, constitue une activité économique pertinente pour les populations. Ça, c'est extrêmement important.
En plus, elles ont de l'argent là, grâce au coltan. Donc, c'est ça le problème.
Bah, malheureusement, c'est qu'on se rend compte que non. C'est, sur les mines, personne ne devient riche, sauf les acheteurs. Mais les gens sur les mines sont des vrais esclaves modernes. On ne peut pas dire qu'ils en bénéficient.
Donc là, il y a peut-être un rôle aussi, non ?
Et bien sûr. Et ça, c'est le rôle de l'autre commission qui a été mise en place. Donc un observatoire local des ressources naturelles. Et eux, ils font le recensement des activités minières ou d'exploitation des ressources naturelles sur l'ensemble du diocèse, qui est un diocèse extrêmement étendu et extrêmement difficile d'accès. Et un diocèse qui est confronté à la présence de multiples groupes armés et une très très forte taux d'insécurité. Et eux, ils vont aussi à la rencontre des populations locales pour les sensibiliser sur leurs droits, récupérer des informations, mais ils vont aussi à la rencontre de ces exploitants artisanaux qui se retrouvent piégés finalement aussi sur leur carré minier. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que d'un côté il y a une approche de développement et puis de l'autre une approche de monitoring, et avec toutes ces informations ils font du plaidoyer. Et là concrètement c'est travailler avec les administrations locales pour voir pourquoi la loi ne s'applique pas, qu'est-ce qui pourrait être fait. Et ils utilisent beaucoup la radio aussi, parce qu'ils ont une radio qui a été mis en place, et cette radio permet d'accéder à des endroits où on ne peut pas aller parce qu'il n'y a pas d'infrastructure de transport ou la situation sécuritaire est trop dégradée. Et via cette radio, il y a des programmes d'éducation, d'éducation au développement, d'éducation à la protection de l'environnement. C'est extrêmement sollicité et c'est très bien accueilli par les populations qui ont l'impression et qui comprennent que il y a quelque chose qui se met en place, il y a une dynamique qui se met en place et qu'ils ne sont pas seuls.
C'est intéressant ce que vous dites pour la radio. Alors là, je vais prêcher pour mon saint, puisque nous sommes sur Radio Grand Ciel. Nous avons accueilli ici des gens qui ont créé ensuite des radios, notamment au Bénin, et des gens qui sont venus travailler avec nous pendant un certain temps pour apprendre et pour ensuite faire que cette radio serve au développement de la population.
La radio est un outil passionnant. On peut organiser des débats, évidemment, mais aussi concrètement...
Informer
les gens de ce qui se passe, et de leurs devoirs et de leurs responsabilités. Avoir des messages de prévention pour éviter de dégrader les berges du lac qui sont de plus en plus dégradées, ce qui fait que les ressources en poissons sont de moins en moins importantes et que les communautés de pêcheurs sont extrêmement appauvries. Tout ça, c'est aussi le fruit d'une action humaine. Et donc, il y a tout un travail de sensibilisation et de formation qui passe par cette radio qui est absolument intéressante.
Et la radio, elle est menée par l'État, par l'Église, par les deux ?
Non, c'est une radio qui est au sein de l'évêché d'Ouvira.
De l'évêché d'Ouvira,
et qui émet, et c'est vrai que les gens écoutent énormément la radio au niveau local, donc se regroupent, et écoutent, et ça permet aussi de créer des espaces de dialogue au sein des villages. C'est vraiment une stratégie portante.
Information grâce à la radio, et bien voilà. Comment c'est soutenu par l'Église universelle, si j'ose dire, ce genre de choses ? Par exemple, Rome regarde ça d'un œil attentif ou au contraire d'un œil on interdit, vous faites de la politique ? C'est quoi en ce moment le...
Non,
par rapport à ce diocèse d'Ouvira, par exemple.
Alors, par rapport à ce diocèse d'Ouvira, et puis bon, en général de l'action de la commission épiscopale pour les ressources naturelles, non, l'Église a été bienveillante et l'Église a dénoncé ce scandale des ressources naturelles, ce scandale des minerais de sang. Le Saint-Père s'est exprimé publiquement, son prédécesseur aussi. Non, ça là-dessus, l'Église a su taper du poing sur la table, et heureusement, parce que ça a énormément de portée. La parole d'un pape porte, et les gens en parlent sur place et se sentent confortés dans leur combat. Ah oui, tout à fait.
République démocratique du Congo.
Évidemment.
On écoute,
bien sûr.
C'est quand même aussi un pays qui est en partie musulman.
Oui, tout à fait. Mais l'Église est un acteur, au niveau local, agit et est extrêmement respectée. Et puis, dans le cadre de ce scandale du pillage des ressources naturelles, son action a été saluée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, cette action dépasse la seule dénonciation du pillage pour aller à un niveau plus sous-régional et en train de se créer un réseau épiscopal pour le bassin du Congo qui réunit l'épiscopat gabonais, camerounais, du Congo-Brazza, de RDC. Et l'enjeu, c'est de réfléchir aussi à la protection plus large de ce bassin du Congo qui doit à la fois être un outil pour le développement local, mais qui est aussi à protéger, mais pour l'humanité tout entière. Et il y a une vraie réflexion sur le modèle de développement et puis sur une certaine,
application de l'audat aussi.
Exactement, c'est exactement ça, c'est l'application de l'audat aussi, et je crois que c'est extrêmement important que les religieux aussi prennent part à ce débat sur le modèle de développement et sur la relation de l'humain à la nature.
Eh bien, merci Samuel Pomeray de nous avoir parlé de ce réseau épiscopal du Congo qui sert le développement et qui sert l'homme. Et aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous. Et si vous voulez en savoir plus, allez voir Fin et Développement Magazine ou bien allez sur le site du CCFD pour voir où on en est dans ces projets de développement.